Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un mort tous les 10 jours à Marseille depuis le début de l'année. Des règlements de compte qui s'enchaînent dans une ville gangrénée par les trafics de drogue. Comment en est-on arrivé là? Quelle réponse aborder? On y revient dès le début de ce journal, mais aussi en longueur avec nos correspondants à Marseille, nos spécialistes police-justice à 12h40. Pour la première fois de l'histoire, un garde des Sceaux en exercice est renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti, accusé de conflit d'intérêts, ses avocats se pourvoient en cassation. La douleur des parents de Canig, leur fils de 2 ans et demi, est mort après avoir mangé une pizza Buitoni. Ils prennent la parole aujourd'hui sur RTL pour réclamer que justice soit faite. Et puis, violents incidents hier soir dans une fac de Téhéran. En Iran, le régime réprime violemment la contestation chez les étudiants. Mais que fait la communauté internationale? On en parle après le journal.
Très bonne question. Que fait la communauté internationale et notamment la France? RTL toujours plus proche de vous. Dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous.
Et aujourd'hui, on ira en Touraine. Ils avaient l'habitude de faire avec les aléas climatiques. Il faut maintenant faire avec les aléas énergétiques. Et pour les arboriculteurs, c'est un vrai cauchemar. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Vide dressing aujourd'hui. Ou comment les Français se sont mis à revendre leurs vêtements sur Internet. Juste avant 13h, LVT Midi, plongée dans le monde des agents secrets avec Marc Duguin, l'auteur s'est confié à Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr avec la venue de Patrick Sébastien. Tout à l'heure, dans Les Auditeurs ont la parole. Regardez-vous toujours autant la télévision?
Voilà une bonne question, mais c'est générationnel. Manifestement, les jeunes la regardent un peu moins. Autant de sujets, évidemment, que vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs. J'ajoute effectivement la présence de Patrick Sébastien. À partir de 13h30, il vient de publier Vivre et renaître chaque jour. Et ce qui sera intéressant, c'est que c'est vous, auditeurs, qui poserez directement les questions à Patrick Sébastien.
Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour d'abord.
Bonjour Céline. Hein,
est-ce que vous regardez autant la télévision, Louis Baudin?
Oui, je regarde encore la télévision. Oui.
Ah, il a plutôt intérêt, Louis. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi sec?
Eh bien déjà du temps plus sec, hein. Hop, on laisse le parapluie à la maison. Et puis avec espoir d'avoir des éclaircies, bon, c'est un peu laborieux dans le Nord.
Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Un mort, tué par balle tous les 10 jours à Marseille depuis le début de l'année. Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se multiplient dans la cité phocéenne.
Illustration encore ce week-end avec 3 nouvelles victimes. Un jeune de 21 ans samedi soir, 2 autres hier, toujours dans le quartier Belle de Mai, Étienne Baudu.
Oui, avec un scénario inlassablement dévastateur. Il est 21h dans cette petite rue du quartier Moulin de Mai. Peu de personnes dehors. Une Clio s'approche de 2 hommes qui fument une cigarette. Ils sont froidement abattus de plusieurs balles de fusil d'assaut, sans doute une Kalachnikov et de pistolets automatiques. Les 2 victimes étaient âgées de 28 et 29 ans. Le plus jeune n'était pas connu des services de police, peut-être une victime collatérale. Le plus âgé était lui connu, mais pour des faits de stupéfiants mineurs. Et à ce stade, il n'était relié à aucune des bandes de narco-banditisme qui se livre une guerre de territoire. Alors on se trouve ici dans un quartier où plusieurs points de deal existent. Nous avons d'ailleurs été priés de ne surtout pas tendre notre micro. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, un règlement de compte avait coûté la vie, non loin de là, à 2 jeunes filles, 17 et 19 ans, étrangères à ces réseaux. La semaine dernière, 4 individus ont été interpellés pour ces faits. Mais pour les 3 assassinats perpétrés ce week-end, une source proche de l'enquête avoue que pour l'instant, étant donné l'identité des victimes, quasiment inconnues de leur service, les policiers de la PJ sont encore dans le flou le plus total.
Étienne Baudu à Marseille. Pour RTL, la lutte contre ces règlements de compte, leur corollaire, évidemment le trafic de stupéfiants. On y reviendra en longueur après le journal de midi et demi. Quelle réaction des pouvoirs publics? Quelles sont les limites des réponses existantes? Point complet donc dans un peu plus d'une demi-heure. Soupçonné de conflit d'intérêts, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été renvoyé ce matin en procès devant la Cour de justice de la République. Seule instance habilitée à juger des ministres dans le cadre de leurs fonctions. Les avocats d'Éric Dupond-Moretti ont immédiatement formé un pourvoi en cassation. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir profité de son poste de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé lorsqu'il était avocat. On y reviendra longuement dans le journal de midi et demi.
Vous les avez peut-être entendus ce matin sur RTL, Ludovine et Théo Soavi, les parents de Canig, décédé le 10 mars dernier après avoir mangé une pizza Buitoni, réclament sur RTL une réponse de la justice.
Car face à leur douleur, après le décès de leur leur petit garçon de 2 ans et demi. Ils n'ont aujourd'hui que le silence, celui du groupe Nestlé, celui de la justice. Ils ont pourtant déposé plainte. Une information judiciaire a bien été ouverte mi-mai pour homicide et blessures involontaires. Mais depuis, aucune nouvelle.
On n'a rien eu du tout. Rien, on a été contacté ni par les autorités judiciaires, ni par les autorités sanitaires, ni même par Nestlé.
On ne sait pas quoi faire, on a l'impression que tout le monde s'en fiche, que beaucoup de gens sont même pas au courant de ce qui se passe. Je pense que si j'écrase quelqu'un dans la rue comme ça, en moins de 48 heures, je suis mise en examen. Le fait que Nestlé ait tué 2 enfants et ruiné la vie de plein d'autres petits-enfants qui pourront peut-être plus jamais marcher ou parler, et que des mois plus tard, ils soient même pas mis en examen, c'est juste... C'est pas normal. Ça donne l'impression que parce qu'on a de l'argent, on a le droit de tuer des petits-enfants. C'est pas grave.
On se sent seul, on est abandonné.
Ludivine et Théo Soavi, donc avec Amandine Bégaud, ce matin sollicité par RTL, le groupe Nestlé n'a pas souhaité réagir à ce stade. Malgré une inflation toujours élevée, 5,6% en septembre sur un an, le taux de rémunération du livret A n'augmentera pas au 1er novembre. Il y aura en revanche une hausse en février prochain, le taux du livret A qui est aujourd'hui de 2%.
Le foot et rien ne va plus à l'Olympique Lyonnais. Figurez-vous que Lyon a perdu son 4e match consécutif. Paraît-il, ce n'était plus arrivé depuis 30 ans.
Effectivement, une nouvelle défaite face au RC Lens, vous le disiez, la 4e de rang pour le club lyonnais dont le rachat par le milliardaire américain John Textor n'est toujours pas finalisé, Philippe Sanfourche.
Oui, une vente qui patine et un avenir incertain, financier et donc sportif. L'OL, 2e budget de Ligue 1 depuis des années, déjà largué à 10 points du 2e et donc de la Ligue des Champions. Le capitaine Anthony Lopez tirait la sonnette d'alarme hier soir au micro de Prime Video.
On mérite rien. Va falloir trouver les solutions en interne. Peut-être savoir aussi par moment se dire les choses. Un club comme l'Olympique Lyonnais qui aspire à aller chercher les plus belles places européennes qu'est la Ligue des Champions, là on en est très très loin. Le fossé est en train de se creuser. Et voilà, quand on prend 0 point sur les 4 dernières journées, ben voilà.
Constat édifiant donc, Lyon perd, car Lyon joue mal. En première ligne, évidemment, l'entraîneur Peter Bosz, qui fait mine de ne pas se sentir menacé.
C'est quoi menacé? Non, je suis pas.
Ni menacé ni inquiet d'ailleurs, le navire OL prend l'eau et Jean-Michel Aulas, lui, joue la montre. Le président hésite à limoger son technicien pour ne pas rajouter de l'inconnu à l'incertitude ambiante.
Et puis ne pas payer peut-être quelques indemnités.
Accessoirement.
Merci beaucoup Philippe Sanfour. La météo, on vous retrouve comme promis Louis Baudin, vous l'amateur.
Louis Baudin, il fait pas très froid.
Oui, je suis prudent. Ben, le matin,
oui, prudent.
Il s'est déjà fait avoir la semaine dernière, rappelez-vous,
exactement.
Il avait la voix toute
enrouée. Vous avez bonne mine, je vous avais bronzé ce week-end.
Ah bah merci.
Ah, vous êtes allé au soleil.
Non, je travaillais.
Vous avez jardiné.
Je ne pouvais pas être dehors. Non, en tout cas, on va pouvoir l'être cet après-midi dehors parce qu'effectivement, on retrouve du temps sec partout. Pas besoin du parapluie. Et normalement, les nuages bas, les brouillards de ce matin devraient se lever. Mais je vois les images satellites. Là, c'est quand même assez laborieux dans la moitié nord. Donc j'espère quand même qu'au fil des heures, on va retrouver des éclaircies. Il restera un peu plus de nuages entre la Bretagne et la vallée de la Loire. Grand soleil dans le sud, un zeste de Mistral dans la vallée du Rhône et des températures de 16 à 21 degrés dans la moitié nord. C'est largement de saison. 21 à 25 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour en France, chaque jour l'info plus près de vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Aujourd'hui, direction la Touraine. Bonjour Christian Panvert.
Bonjour à tous.
Après le gel, la sécheresse, les arboriculteurs sont maintenant confrontés à des factures d'énergie qui explosent. C'est x4, x5, voire plus selon les cas, Christian.
Oui, j'ai rencontré Sébastien Delareux. Il est arboriculteur à Saint-Aubin-le-Despins, en Indre-et-Loire. Il va récolter 2500 tonnes de pommes jusqu'au 20 octobre. Alors, des pommes qu'il va vendre durant toute l'année. Vous pensez bien qu'il ne peut pas écouler 2500 tonnes d'un coup. Alors, pour ça, il doit bien sûr conserver ses fruits.
Si on arrive à manger des pommes toute l'année, c'est que c'est un fruit qui se garde bien au frigo, en atmosphère contrôlée. Donc on empêche la pomme de respirer et de mûrir trop vite. On n'ajoute pas de produits, mais c'est juste un système où on l'empêche de respirer.
Et c'est pour ça qu'on a besoin d'électricité.
Le froid est fabriqué à l'aide de l'électricité. Chez moi, je paye 35-40 000 euros d'électricité par an pour un peu de frigo et puis aussi un peu d'irrigation l'été. Et on passerait sur l'ordre de 150-200 000 euros pour une année. Donc c'est une catastrophe, oui.
Christian, ça paraît hallucinant. La facture d'électricité pourrait par exemple passer de 40 000 euros par an à 200 000 euros. Donc il va devoir répercuter ses coûts forcément.
Non, il ne pourra pas répercuter entièrement ses coûts considérables sur les prix de vente, car une partie de la concurrence étrangère ne connaît pas de telles augmentations de l'électricité et va proposer au final des fruits moins chers que les Français.
Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça sur le consommateur parce que c'est une offre mondiale et malheureusement, les acheteurs vont trouver des pommes toujours un peu moins chères ailleurs parce que dans certains pays de l'Europe, ce n'est pas le cas sur cette augmentation. Donc, on est lié à l'offre du marché, enfin au prix de marché et on peut pas répercuter ça. Le consommateur sera face à des pommes, aura toujours des pommes, mais elles ne seront pas françaises, elles seront polonaises, italiennes ou alors après de l'hémisphère sud.
Sébastien Delareux, qui est aussi représentant départemental de la Fédération nationale des producteurs de fruits, en appelle à l'État.
On espère que l'État mette en place des choses pour nous aider à passer le cap. Sinon, il y a beaucoup de collègues qui risquent d'être impactés très fortement, voire l'arrêt de l'activité Arbo. Un hectare de verger, c'est un emploi direct et un emploi indirect. Ça va faire beaucoup de chômeurs et c'est pas bon pour l'économie.
Merci.
Sébastien Delareux, qui emploie 40 salariés dans une commune de 300 habitants, m'a confié qu'il avait déjà prévu de stopper tous ses investissements pour 2023, afin bien sûr de faire face à cette crise.
Merci beaucoup Christian Bonvert en Touraine, donc pour RTL.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Aujourd'hui, la répression en Iran et le peu de réaction de la communauté internationale. On vous explique les raisons peut-être.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
C'était hier soir à l'université Sharif de Téhéran, en Iran, illustration de la répression terrible qui s'abat sur les manifestants qui défient le régime. Bénédicte Tassar, ce que l'on entend, ce sont les forces de l'ordre qui répliquent de manière très agressif contre les étudiants.
Ah oui, des tirs, des gaz lacrymogènes, du paintball, des billes d'acier et des jeunes poursuivis jusque dans le parking souterrain. D'autres emmenés dans un fourgon, un sac sur la tête. Des interpellations dans l'enceinte même de l'université, avec à l'extérieur les parents, les proches qui protestaient contre cette action des forces de sécurité. Des slogans, celui qu'on entend désormais tous les jours, femme, vie, liberté. Et d'autres, les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation. Une agence d'information locale précise qu'hier, le ministre des Sciences est entré dans cette université pour entamer un dialogue. Ça n'a pas marché. Les cours sont suspendus depuis ce matin dans cette fac assez réputée. La mobilisation continue aujourd'hui et à l'instant, l'Iran réplique officiellement. Les émeutes sont fomentées par les États-Unis et Israël, selon Ali Khamenei, le guide de la révolution iranienne.
Alors justement, le guide de la révolution qui cible l'étranger. Et on s'interroge aujourd'hui sur les réactions de la communauté internationale. Alors il y a bien des manifestations de solidarité dans le monde entier, Tokyo, San Francisco, Londres, encore Paris hier où des milliers de personnes défilaient. Et si Joe Biden a affiché il y a quelques jours son soutien aux femmes courageuses, la France semble rester assez silencieuse. Bonjour Myriam Pirzadeh.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste de l'Iran. Comment expliquer que la diplomatie internationale ait du mal à évoquer ce sujet, à soutenir les manifestants ?
Alors pas toute la diplomatie. Le Canada est le seul pays occidental pour l'instant à avoir pris des sanctions contre les gardiens de la Révolution. Hier devant sur le mur du Parlement canadien, le drapeau de l'Iran s'est affiché. Effectivement, il y a un retard à l'allumage du côté des Européens. Il y a l'Allemagne qui pousse pour que l'Union Européenne parle d'une seule voix, parle de sanctions, de résolutions. Le Parlement Européen, je l'ai appris aujourd'hui, réfléchit à une résolution pour condamner tout ça. Mais effectivement, ce silence est vécu assez mal en Iran. Ils se sentent esselés. Ils ont l'impression qu'ils manifestent, ils jouent leur vie quand même. Hein. Là, vous avez parlé de Sharif. C'est effroyable ce qui s'est passé hier à Téhéran. Les images font froid dans le dos. Ça devrait choquer tout le monde que les forces de police rentrent dans une université. Alors, vous dites qu'elle est assez réputée. C'est l'une des universités les plus réputées au monde. C'est l'équivalent de Polytechnique en France. Donc, la police est en train à massacrer, arrête l'élite de son pays. C'est ce qui s'est passé hier. Il y a aussi, je voudrais dire, quelque chose qui est très mal passé en Iran, c'est la poignée de main entre Emmanuel Macron et Ebrahim Raisi en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. C'était il y a 10 jours, une semaine maintenant. Ça fait la une de tous les journaux. Et les Iraniens se demandent comment le président de la France peut serrer la main d'Ebrahim Raisi alors que la contestation et la répression est féroce en ce moment en Iran.
Bénédicte ?
Oui, et il faut dire que cette poignée de main s'est déroulée pendant l'Assemblée générale générale de l'ONU. On voyait Emmanuel Macron très ennuyé devant les photographes. Il n'a pas réussi à éviter cette poignée de main. Je pense qu'il le regrette amèrement. Et à l'Élysée, on nous précisait que le président avait communiqué son trouble, son émotion à Raïssi. Il lui a dit qu'il respectait les aspirations de la société iranienne, mais Raïssi lui a répondu tout de suite que par la souveraineté. Autrement dit, c'est Téhéran qui décide et la France n'a pas à s'en mêler.
Non, la question qu'on se pose, bien sûr, c'est est-ce qu'il y a des enjeux politiques, commerciaux, pourquoi pas, qui empêchent la France de prendre position ?
Oui. Là, effectivement, avec la guerre en Ukraine, la difficulté de s'approvisionner en gaz russe, il faut rappeler que l'Iran a les deuxièmes réserves de gaz au monde. L'Iran est en train de se rapprocher déjà depuis plusieurs mois de manière ostentatoire avec la Russie, qui détient les premières réserves de gaz au monde. Donc, à eux deux, ça représente quand même plus de la moitié des réserves de gaz au monde. Les Européens ont besoin de gaz.
Et la France
effectivement, bien sûr. Il y a une petite phrase qui est passée inaperçue d'Emmanuel Macron, c'était en marge du G20, du G7, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il disait qu'il fallait aussi regarder du côté de l'Iran et du Venezuela pour le pétrole et aussi pour le gaz, parce que toutes les opportunités sont sur la table maintenant pour contourner le gaz russe. Et ça, les Iraniens l'ont très bien compris, parce que l'accord sur le nucléaire iranien, il faut en parler juste deux secondes si vous me permettez, il a été signé en 2015. C'était pas du tout le monde qu'on connaît maintenant, et les Iraniens savent très bien qu'ils ont une monnaie, qu'ils ont une force, c'est leur gaz. Donc qu'ils reviennent dans des négociations sur le nucléaire iranien avec cette force-là, sachant que les Européens ont besoin de gaz pour se chauffer cet hiver, que ça occupe tous les esprits. Donc là, c'est pas le même Iran qui est face aux Occidentaux dans cette négociation sur le nucléaire iranien.
Oui, il faut dire que c'est un régime ultra-conservateur aujourd'hui, avec une politique très stricte. On le voit notamment sur la politique du port du voile. Et aussi, ils en profitent donc pour négocier, faire un peu de chantage, entre guillemets, sur le nucléaire.
Eh bien, merci en tout cas, Myriam Pirzadeh. Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24 et on a pu éclairer ce sujet particulièrement grave. Dans une seconde, c'est RTL Midi, votre vie. On en parle évidemment ensemble, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien.
On va parler des gens qui vendent leurs vêtements sur Internet, Pascal. Vous faites, vous, Vinted ? Ça vous parle ?
Non.
Non. Non. Bon, on va tout vous expliquer juste après ça.
À tout de suite.
Une info vous intéresse ? Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.fr. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence.
Le grand Marielle dans l'entourloupe, voilà pour la recette.
C'est un film culte, hein, l'entourloupe. C'est un film de Gérard Pires, je vous assure, c'est un ovni complet avec Jacques Dutronc et Gérard Lanvin.
Voilà donc pour la recette du bon vendeur que vous appliquez peut-être si vous faites partie de ces Français qui vident désormais leurs armoires en revendant leurs vêtements. À l'occasion de la semaine de l'économie circulaire, RTL Midi a donc décidé de s'arrêter sur ce phénomène loin d'être anecdotique. Et c'est avec vous Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
D'abord, question vénale, combien on peut gagner en revendant ses vêtements en ligne ?
Alors, ceux qui ont l'habitude de le faire, selon l'Observatoire CTLM de la consommation, ils disent que ça leur apporte en moyenne 64 euros par mois. Ce n'est donc pas une petite tendance, hein, c'est devenu un véritable phénomène. Depuis le confinement en particulier, on a pu se rendre compte de tout ce qu'on avait amassé dans nos placards. Un vêtement sur deux qui ne sert à rien en général. Et en France, la revente de vêtements d'occasion génère plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an.
Et qui sont les vendeurs ?
Alors déjà, les moins de 35 ans, plus on est jeune, plus on vend et plus on achète des vêtements d'occasion. Là, l'idée, c'est de se faire plaisir, de dénicher les bonnes affaires et même de se faire un peu d'argent, une plus-value. J'ai des témoignages de jeunes de 18 ans qui achètent des vêtements 5 euros dans des friperies. Ils les portent 2 ou 3 fois et ils les revendent 2 ou 3 fois plus cher sur Internet. Ils disent qu'ils payent moins cher en achetant et quand ils revendent, et ben ça leur fait de l'argent en plus. Il y a beaucoup de femmes aussi adeptes qui vendent et qui achètent des vêtements d'occasion. Selon une étude KPMG pour la FEVAD, la Fédération du e-commerce, les 3/4 des cyberacheteurs et surtout les femmes disent avoir le réflexe d'aller vérifier si le produit n'existe pas en seconde main avant d'acheter neuf.
Et alors, est-ce que c'est vraiment plus écolo, Armelle, parce qu'il y a quand même l'envoi, la livraison, tout ça ?
Alors, c'est vrai, à l'inconvénient, quand vous vendez en ligne, vous devenez facteur, vous faites des allers-retours au point relais, le produit part à l'autre bout de la France, voire en Europe, pour le bilan carbone, c'est pas terrible. Mais votre vêtement peut quand même avoir 5 ou 6 vies, donc c'est l'intérêt de l'économie circulaire, parce qu'en réalité, nous achetons 2 fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans, et nous les conservons deux fois moins longtemps, ce qui fait qu'on jette chaque année en France l'équivalent de 45 tours Eiffel de textile à la décharge ou à l'incinérateur.
Bon, Armel, on va faire un cas d'école. J'ai décidé de vendre mon costume que je porte à l'instant. Je le propose à 64 euros, puisque c'est ce qu'on gagne par mois. Comment je fais ?
Alors, avant, pour vendre vos affaires,
faut se déshabiller, vous pensiez... Pascal, mais bon.
Oui, ah ben, c'est... ça fait un mois qu'on travaille ensemble et vous me demandez déjà de me déshabiller, Céline.
Ah, mais vous savez, les choses s'accélèrent. Hein. Armel, pardon.
Alors j'imagine que vous allez déjà aller penser au vide-grenier, au friperie, au dépôt-vente.
Ah oui, je ne l'ai pas sur Internet.
Alors ça, c'était, on va dire... Au temps d'avant. Mais maintenant, il y a d'autres façons effectivement de vendre vos vêtements et c'est alors d'aller sur Internet. Pour vous donner une idée du succès, vous avez deux spécialistes de la seconde main entre particuliers qui font désormais partie du top 5 des sites de e-commerce les plus visités en France. 6,5 millions de visiteurs français chaque jour sur Le Bon Coin.
Ouais, j'allais vous dire, c'est Le Bon Coin effectivement.
Oui, et 5 millions de visiteurs par jour pour Vinted. Vous rendez
d'accord, mais Le Bon Coin, on peut tout vendre, ça, une table de cuisine,
oui,
ça,
et là,
costume.
Vous jouez sur la proximité.
D'accord.
C'est-à-dire que généralement, vous vous rencontrez, vous vous retrouvez. Alors que Vinted, vous envoyez. Vous envoyez
d'accord.
par la poste.
Alors, je ne sais pas si mon costume va partir vite
alors,
ou pas.
Après, si vous avez des vêtements, enfin, votre costume, par exemple, c'est une marque de luxe, là, vous pouvez le vendre sur Vestiaire Collective. Ah. Des experts vont vérifier que c'est bien un produit de marque et que ce n'est pas une contrefaçon.
D'accord.
Après, vous avez des sites comme Jayo. Alors là, quelqu'un vient chez vous, il va faire le tour de votre dressing, il va prendre ce qui l'intéresse et il va s'occuper des photos.
Jayo, ça s'écrit comment, Jayo ?
Oui, J-A-I-I-O.
D'accord.
Et là, il va renvoyer sur 6 plateformes dans 80 pays et vous touchez ce qui est vendu. Alors, pour ce qui n'est pas sélectionné à la vente, il va vous proposer de les donner à des associations comme le Secours Populaire ou la Cravate Solidaire pour habiller des demandeurs d'emploi. Vous avez aussi des friperies digitales Once Again qui revend aux friperies en Europe. Et vous pouvez aussi vendre, alors Pascal, sur les réseaux sociaux avec des photos.
Ah bah si, oui, sur Twitter, je vais essayer de vendre un costume.
Puis vous pouvez demander après où est-ce qu'il va, votre costume, qui le porte. Vous pouvez suivre votre costume sur les réseaux sociaux.
Et bah, c'est très intéressant. Merci beaucoup Armel. Et je retiens effectivement que c'est un sport national, notamment pour les plus jeunes. C'est Pierre Desproges qui disait « Je n'envoie plus jamais rien à l'abbé Pierre parce qu'il ne le porte jamais. » C'est RTL Midi Votre Vie dans une seconde qui revient. C'était RTL Midi Votre Vie et l'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30. Merci à Armel Lévy, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Éric Dupond-Moretti renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République, accusé de conflit d'intérêts. C'est la première fois qu'un garde des Sceaux en exercice est visé par une telle procédure. Ses avocats se pourvoient en cassation, vous explique tout dès le début de ce journal. Rentrée parlementaire mouvementée aujourd'hui pour les députés, polluée par les affaires. Le gouvernement appelle les entreprises à la sobriété. Emmanuel Macron, lui, s'exprime en col roulé. On va tout vous expliquer. Un mort tous les 10 jours à Marseille depuis le début de l'année. Les décès s'enchaînent sur fond de trafic de stupéfiants. Comment en est-on arrivé là? Quelle solution pour essayer d'enrayer tout ça? On y revient en longueur à 12h40. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Aujourd'hui, Marc Duguin, l'auteur de Paysages trompeurs, nous offre une plongée dans les entrailles des services secrets. La question du jour sur RTL.fr avec la venue de Patrick Sébastien tout à l'heure dans Les Auditeurs ont la parole. Regardez-vous toujours autant la télévision?
Et on en parlera précisément à 13h. Et je rappelle que dans ces cas-là, lorsque nous avons un invité, eh bien c'est vous qui l'interrogez directement. Et vous allez pouvoir interroger donc Patrick Sébastien pendant une heure de 13h30 à 14h30.
La météo à la fin du journal, mais déjà Louis Baudin, un indice, c'est sec.
Pas de pluie, voilà, du temps sec, du soleil dans le sud et peut-être des éclaircies dans le nord. Je reste prudent maintenant.
Merci Louis.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est la première fois qu'un garde des Sceaux en exercice est visé par une telle procédure. Éric Dupond-Moretti a été renvoyé aujourd'hui en procès devant la Cour de justice de la République. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
La CJR, seule instance habilitée à juger un ministre dans le cadre de ses fonctions. D'abord, qu'est-ce qu'on reproche exactement au ministre de la Justice ?
Eh bien, l'ancien ténor du barreau est soupçonné d'avoir profité de sa nomination à la chancellerie pour régler ses comptes avec des magistrats. Des magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il portait encore la robe d'avocat. En fait, pour le dire simplement, la justice lui reproche d'avoir voulu se venger en ordonnant des enquêtes administratives. Une situation intenable, dénonce Maître Christophe Clerc, l'avocat des syndicats de magistrats à l'origine de cette procédure.
C'est un peu comme si un ancien joueur de football devenu arbitre mettait des cartons rouges dans des parties qu'il arbitrerait à des joueurs qui lui auraient déplu dans des matchs précédents.
En fait, pour le c'est cette fois, ces talents d'orateur, d'ogre des prétoires ne suffiront pas à renverser les jurés puisqu'Éric Dupond-Moretti fera face donc peut-être un jour à 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires.
On l'a dit, il a été renvoyé en procès mais ses avocats ont annoncé dans la foulée un pourvoi en cassation. Ça veut dire quoi ?
Alors cela veut dire qu'il va falloir attendre que l'assemblée plénière de la Cour de cassation se réunisse. Cela devrait prendre au moins 6 mois, puis la Cour tranche. Si elle valide cet arrêt de renvoi, il y aura bien un procès, alors que le dossier est vide, insiste Maître Christophe Ingrin. L'avocat d'Éric Dupond-Moretti, lui, y voit une vengeance des syndicats de magistrats qui n'ont jamais accepté sa nomination.
Depuis son arrivée, les syndicats de magistrats contestent sa légitimité. Ils parlent sans discontinuer de déclarations de guerre. Ils s'étonnent qu'il soit toujours en fonction. Et ils ont trouvé dans la commission d'instruction un outil qui leur a donné très momentanément satisfaction, puisque, encore une fois, à l'heure où nous parlons, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, n'est pas renvoyé devant la formation de jugement.
D'ici là, le ministre l'a répété sur tous les tons, il ne démissionnera pas.
Merci beaucoup, Cindy Hubert, spécialiste justice pour RTL.
L'autre titre politique du jour, et qui va lui aussi polluer la rentrée parlementaire aujourd'hui, c'est Adrien Quatennens.
Oui, le député insoumis avait déjà reconnu des violences conjugales après des mains courantes de sa femme avec laquelle il est en instance de divorce. Mais d'après nos confrères de BFM, après ses mains courantes, son ex-compagne a aussi porté plainte. Les députés insoumis qui retrouvent les bancs de l'Assemblée aujourd'hui espéraient tourner la page de cette affaire, lancer un automne de combat plus politique. Les voilà une nouvelle fois rattrapés, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, c'est un lundi de déprime chez les Insoumis. Ils sont prêts à batailler contre la réforme de l'assurance chômage ou celle des retraites, mais sont de nouveau ramenés à la situation d'Adrien Quatennens qui les poursuit. Alors, les rares députés de la France Insoumise qui traversent la salle des quatre colonnes préfèrent éluder. On verra quand ils ne refusent pas tout bonnement de commenter. Et chez les partenaires de la NUP, on est à peine plus bavard. À la justice de faire son travail, rien de nouveau sous le soleil. Dans l'attente de suite judiciaire, Adrien Quatennens ne devrait de toute façon pas reparaître à l'Assemblée.
Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée nationale pour RTL.
Et quand les députés retrouvent l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron relance son CNR.
Le Conseil national de la refondation, vidéo publiée sur les réseaux sociaux il y a une petite demi-heure maintenant. Vous l'avez regardé, Olivier Bost,
oui.
Et évidemment, vous êtes chef du service politique, c'est pas pour rien, un détail ne vous a pas échappé.
Oui, c'est la tenue. C'est difficile, parce que c'est-à-dire qu'il aurait pu dire n'importe quoi, tout le monde n'a regardé que l'image. Et l'image, c'est quoi ?
Ben, c'est une veste et un col roulé, Olivier.
Oui, alors qu'il fait 25 degrés dehors.
Alors, le col roulé, il faut le savoir quand même, a toujours fait partie du vestiaire du
oui,
président.
Oui, l'hiver.
Pour une... tout à fait.
Mais là, il fait pas froid, c'est pas justifié.
Ah, il fait quand même pas hyper chaud, hein.
Il fait combien ? Il fait 20
Ah oui, oui, oui.
Degrés.
On ne sait pas à quelle heure elle a été enregistrée.
C'est le seul Français vidéo, que je connaisse qui est en col roulé pour le moment, Emmanuel Macron. Regardez ici, personne n'a de col roulé.
Eh oui, mais il aime ça quand même. Pour une
je pense qu'il aime surtout faire passer des messages, manifestement.
Laissez Olivier parler,
quand
Pascal.
Quand il a le Covid aussi, il en a porté. En fait, le chef de l'État aime ses petits pulls qui protègent le cou des courants d'air de l'Élysée, parce que, vous le savez, la
Olivier,
maison n'est
pas
isolée.
Pas
c'est
pas
un
ça.
Vieux bâtiment. Et il les aimait déjà, ces cols roulés, avant la crise énergétique. Donc, pas besoin des conseils vestimentaires de son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Emmanuel Macron, je suis désolé de vous décevoir, mais aime les cols roulés. Alors qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ça c'est un autre débat.
Bon. Donc on ne dira pas qu'il nous prend un peu pour des blablas ou des imbéciles, quoi. On ne dira pas ça.
Non, on ne dira pas ça.
On va plutôt s'arrêter sur ce qu'il annonce.
En fait, dans une vidéo de 14 minutes, Emmanuel Macron lance pour la 3e ou 4e fois son CNR. 14 minutes qui se résument par une annonce. un site internet, conseil-refondation.fr, un site pour recueillir toutes les idées pour faire avancer le pays. Son Conseil national de la refondation est inspiré du Conseil national de la résistance, je vous le rappelle, qui rebâtit la France après-guerre. Et parallèlement au CNR, Emmanuel Macron annonce le lancement de 2 chantiers sur le terrain, sur l'école et la santé. Là encore, il s'agit de trouver les bonnes idées qui viennent d'en bas. Emmanuel Macron appelle ça la méthode nouvelle. Alors, toute ressemblance avec le grand débat n'est pas fortuite, Pascal. Il s'agit, comme après les Gilets jaunes, de retrouver un élan que l'élection présidentielle n'a pas suffi à impulser.
Et bien, s'il porte le col roulé en octobre, j'attends le passe-montagne pour le mois de décembre. Merci. Merci, cher Olivier. Après les cols roulés et les doudounes, après avoir tenté de montrer l'exemple, donc, le gouvernement veut demander aux entreprises d'en faire de même. Et ça, c'est plutôt bien.
Oui, l'exécutif présentera jeudi son plan de sobriété énergétique à destination des entreprises, vous le disiez. Bon, en clair, un guide de bonne conduite pour consommer 10% d'énergie en moins cet hiver. Arnaud Touche, vous avez pu consulter ce rapport pour RTL. Bon, c'est un peu le bon sens près de chez vous. Hein.
Alors, le bon sens, oui, mais chiffré et révélé par nos confrères de Context. Le gouvernement propose aux entreprises de chauffer leurs locaux à 19 degrés maximum et de n'activer la clim qu'à partir de 26 degrés. Et si un bâtiment est inoccupé pendant 48 heures, eh bien, le week-end, par exemple, il faudra baisser à 16 degrés. Bien entendu, il faut éteindre la lumière s'il n'y a plus personne dans l'entreprise, à 1h du matin pour l'éclairage extérieur. Lors d'une réunion entre collègues, il faut privilégier l'audio plutôt que la vidéo et archiver ses mails, c'est moins consommateur. On vous conseille aussi de désigner un référent sobriété énergétique au sein de l'entreprise, ça c'est pour les bureaux. Le gouvernement conseille aussi aux entreprises de privilégier le train plutôt que l'avion, sauf si le trajet est de plus de 4 heures et qu'un aller-retour en une journée prend plus de 6 heures sur les rails. Et si vous prenez l'avion, eh bien attention, il faut privilégier les lignes régulières plutôt que les jets privés. Toutes ces actions, elles sont préconisées et donc non obligatoires et les entreprises pourront s'inscrire sur un site pour suivre leurs objectifs de sobriété tout au long de l'hiver.
Merci beaucoup Arnaud Touche pour RTL.
Nous partons pour l'étranger, c'est un nouveau mois de campagne acharné qui s'ouvre au Brésil.
4 semaines, oui, pour départager Lula, l'ancien président icône de la gauche brésilienne, arrivé en tête du premier tour hier avec 48% contre 43% pour le président sortant Jair Bolsonaro. Bolsonaro bien plus haut que l'avait estimé les sondages qui tablaient sur un écart de 14 points entre les deux hommes. Le second tour de cette présidentielle aura donc lieu le 30 octobre. En Iran, le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, accuse les États-Unis et Israël d'avoir fomenté le mouvement de contestation contre le régime, contestation qui s'est illustrée hier soir par une répression terrible au sein de l'université Sharif de Téhéran. Au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss, elle, fait marche arrière. Finalement, les impôts des plus riches ne baisseront pas, Marie Billon. Il faut dire qu'en pleine crise des prix de l'énergie, cette mesure était pour le moins contestée.
Oui, et de toutes parts. Hein. Alors en fait, fin septembre, le nouveau gouvernement avait décidé de baisser les impôts des plus riches, abolir le plus haut palier d'imposition de 45%. D'abord, les Britanniques ont trouvé ça injuste en plein milieu d'une crise du coût de la vie, mais aussi les marchés se sont affolés, la livre s'est effondrée. Les autorités financières britanniques, la Banque d'Angleterre et internationale, le FMI, ont dénoncé cette mesure et tout ça menaçait les porte-monnaies des Britanniques, puisque les remboursements des prêts immobiliers auraient explosé avec des taux d'intérêt relevés. Les Britanniques étaient fous d'inquiétude. Le ministre des Finances Kwasi Kwarteng l'a admis à moitié ce matin sur la BBC.
J'ai compris le message. Cette mesure était devenue une distraction alors que le reste du paquet fiscal reste très important.
C'est vrai qu'il n'y avait pas que cette annonce dans le mini-budget, mais c'est cette mesure qui faisait tanguer un gouvernement d'à peine un mois. Alors face à une rébellion interne au deuxième jour de la conférence annuelle du Parti conservateur, le demi-tour a été annoncé, les marchés se sont calmés. La tension au sein de la majorité, elle, reste très élevée.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. La météo, on vous retrouve comme promis, Louis Baudin, avec votre écharpe.
Voilà.
Malgré ce que dit Pascal,
moi,
il ne fait pas si chaud.
Moi, j'ai pas mis le col roulé, mais j'ai une écharpe, oui, pour le matin notamment, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il fait frais au lever du jour. Hein, on était parfois entre
12h40. Hein.
Et là, 12h40, petit à petit, on va voir ces températures atteindre 17, 16 à 21 degrés à peu près dans la moitié nord. C'est juste dans les valeurs de saison, 21 à 25 degrés dans le sud. Là, effectivement, ça sera plus doux pour ne pas dire chaud. Tout cela avec du soleil dans le sud, hein, ça y est, il est déjà là. De l'Aquitaine à la Méditerranée, là, les nuages, les brouillards se sont levés. Mais dans la moitié nord, j'avais promis là aussi de belles éclaircies. C'est un peu plus laborieux. Alors j'espère que ça finira par arriver sur l'Île-de-France, sur le nord-est. En revanche, il restera plus de nuages. Ça, c'était prévu entre la Bretagne et le Val-de-Loire. Et donc, tout cela avec un peu de mistral dans la vallée du Rhône.
Merci Louis.
Marseille où l'insécurité, Marseille où le trafic de drogue. Marseille, un mort tous les 10 jours, tué par balle. À tout de suite avec Hugo Hamelin et Maxime Lévy.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Il y avait deux mecs en T-Max, et il a vu une Kalachnikov, il est venu, il a tiré sur le mec, il voulait se réfugier ici, et ça lui a mis une balle, la balle fatale, et il est mort ici. Pour moi, c'est un film, là. C'est pas réel pour moi.
28 morts déjà depuis le début de l'année à Marseille. Vous avez entendu le témoin de l'un de ces règlements de compte. Il y en a eu 3 rien que pour ce week-end. Un mort par balle, donc tous les 10 jours en moyenne depuis le début de l'année. Derrière ces chiffres, évidemment, le trafic de drogue qui gangrène la ville. Pour en parler avec nous, Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Bonjour Hugo.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et Maxime Lévy, journaliste police-justice à la rédaction, bonjour.
Bonjour.
D'abord, Hugo, vous couvrez-vous régulièrement ces règlements de compte à Marseille? Est-ce que vous avez le sentiment que la situation empire?
Je les couvre depuis 10 ans à Marseille. En tout cas, la situation, elle ne s'améliore pas et je ne m'habitue pas. Nous ne devons pas nous habituer à voir des jeunes de 20 ans qui sont assassinés devant des témoins à l'arme de guerre en France. On a surtout l'impression que c'est un cycle infernal. C'est une histoire qui se répète malgré les millions injectés par les différents gouvernements. On voit un modus operandi du règlement de compte qui se démocratise avec des kalachnikovs, des cagoules, des guet-apens pour tuer des jeunes adultes qui ne sont pas des trafiquants établis, hein, comme le jeune de 21 ans qui a été tué samedi soir, qui avait que quelques excès de vitesse à son casier judiciaire. Le sentiment, pour finir, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines de jeunes à Marseille qui vivent dans un monde parallèle. On les appelle les matrixés, d'ailleurs, ils ont un nom. Et la règle, c'est réussir dans le trafic ou mourir.
Règlement de compte, c'est toujours un peu nébuleux. Qui règle son compte à qui? C'est-à-dire que ce sont des mafias, entre guillemets, qui règlent leur compte à ceux qui ne sont pas dans le système?
Ah non, non, là vous avez les 3 personnes qui ont été abattues ce week-end, elles n'ont pas du tout de grosses condamnations pour trafic de stupéfiants, elles ne sont pas du tout des...
Alors pourquoi elles sont abattues précisément? Elles sont abattues par le système mafieux, si j'ose dire?
Ah bah elles sont abattues à coups de kalachnikov en pleine rue, Pascal, donc effectivement...
Oui, mais par qui règle son compte à qui?
Très bonne question, très bonne question. Mais alors ça, c'est à la police judiciaire qu'il faut la poser. Vous avez simplement ce que je veux vous dire par le fait que ça se démocratise, c'est que vous avez pour des motifs qui peuvent être plus futiles que la lutte pour un point de deal, des gens qui vont aujourd'hui se tuer à la Kalachnikov à Marseille, comme ça a été le cas ce week-end.
Mais à chaque fois, l'arrière-plan, Hugo, ça reste le trafic de stupes.
Pas toujours, mais très souvent, effectivement. Il y a aussi des vendettas, il y a des meurtres préventifs dans l'optique de récupérer un point de vente. Il y a des victimes collatérales aussi, on va pas les oublier. C'est peut-être le cas pour une des 2 victimes qui a été tuée hier soir à la Belle de Mai. Et règlement de compte, effectivement, c'est devenu une expression et c'est un critère désormais, enfin il faut 4 critères pour la police pour que ça devienne un règlement de compte. Il faut le fait qu'il y ait des armes de guerre, il faut que ce soit un guet-apens et il faut que la personne qui soit visée ait un vrai profil de trafiquant, ce qui n'est pas toujours le cas.
Bon, c'est particulièrement fort à Marseille, Maxime Lévy, c'est impressionnant, mais c'est un phénomène qui existe dans toute la France, ces règlements de compte.
Oui, toutes les zones urbaines sont touchées, mais tout est question de proportion. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis janvier 2021, près de 1000 opérations de pilonnage sont réalisées chaque mois sur le territoire. Alors les Bouches-du-Rhône, bien sûr, sont ciblés en priorité. Avec Marseille, d'ailleurs, cet été, la plus grosse opération de pilonnage a eu lieu. 550 policiers et gendarmes mobilisés pendant 3 jours. Mais les forces de police se concentrent aussi sur les villes moyennes, comme Dijon, Nantes, Angers ou Besançon. Là aussi, il y a désormais des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Et c'est assez nouveau, ces villes moyennes, depuis quelques années.
Et pourquoi les réponses apportées par les forces de l'ordre notamment ne fonctionnent pas?
Alors justement, reprenons ces réponses une à une. D'abord, le pilonnage contre les points de deal. Il s'agit, sur un temps très court, de plusieurs dizaines, voire centaines de policiers et gendarmes pour investir un quartier, contrôler tout le monde. Pendant ce temps-là, la vente va cesser. Les dealers vont être touchés au portefeuille. Sauf que malheureusement, quelques heures, voire jours plus tard, les points de deal se réinstallent. Sans compter que les dealers investissent sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple ce phénomène de Uber Shit, où le cannabis s'achète en ligne et peut même être livré. Le point de deal n'est donc plus visible. Ensuite, le trafic de stupéfiants, c'est un immense réseau mafieux. Donc les points de deal ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La police judiciaire enquête longuement pour remonter les filières. Il y a une véritable coordination entre les services de police, de gendarmerie et de douane, mais également une coordination entre la France et les pays où se trouvent les importateurs comme le Maroc. Et cette collaboration, elle n'est pas toujours évidente.
Dans ce dossier de la drogue, on parle rarement des consommateurs. Est-ce qu'il faut davantage les sanctionner? On posera la question tout à l'heure aux auditeurs, parce que c'est quelque chose, effectivement, qui est souvent mis de côté. Merci Maxime Lévy, merci Hugo Hamelin. Dans un instant, LVT Midi avec Marc Duguin, qui s'est confié à Bernard Lehu. Et si je vous ai bien écouté ce matin, bonjour Bernard Lehu, c'est un roman d'espionnage.
Eh oui, son premier, figurez-vous.
À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Et la culture se met à tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, on parle du premier roman d'espionnage de Marc Duguin avec vous, Bernard Lehu.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour Bernard.
Et merci d'être avec nous, Marc Duguin, qui est un auteur qui est très suivi.
Oui, et même un des écrivains majeurs, aujourd'hui, on peut le dire, dans le paysage littéraire français.
C'est peu dire donc que son nouveau roman Paysage trompeur, c'est son titre, est très attendu jeudi, il paraît chez Gallimard. C'est une plongée, Bernard, dans le quotidien des agents des services secrets français. En exclusivité pour RTL, vous l'avez débriefé, comme on dit chez les espions, Marc Duguin, pour savoir en fait... Comment il arrive à ce degré de réalisme?
Oui, alors l'attirance pour le monde des services secrets n'est pas nouvelle chez Marc Duguin. On se souvient de son formidable La malédiction d'Edgar, qu'il avait consacré au chef du FBI, Edgar Hoover, et à ses coups tordus, en particulier avec les Kennedy. Voici qu'il se lance donc dans un pur roman d'espionnage. Première confidence de Marc Duguin. L'espionnage, eh bien, fait partie de l'ADN familial.
Mon père, j'ai appris après sa mort qu'il avait pas mal collaboré dans ce milieu-là, sur la partie scientifique, sur la partie nucléaire. J'ai un oncle qui a été à la DGSE, le parrain de mon frère a été le patron du SDEC. Donc il y avait déjà une culture familiale de l'espionnage. Et puis après, il y a eu l'intérêt littéraire avec John le Carré. Et j'aime ces ambiances-là, avec pas mal d'histoires que j'ai envie de raconter, que je connais, qui sont des histoires soit vraies, soit plutôt inspirées de la réalité, avec des mécanismes, des engrenages qui me plaisent.
Et Marc Duguin avertit effectivement au début de son roman « Paysage trompeur » qu'il s'est inspiré de faits réels, qui pour certains ont pris une autre direction. Comment a-t-il pris connaissance de tels faits en principe appelés à rester secrets?
Eh bien, on poursuit le débriefing de Marc Duguin et il semble avoir beaucoup d'amis qui lui livrent de nombreuses confidences.
J'ai eu vent de certaines opérations sur lesquelles je me suis renseigné un peu plus et puis effectivement, elles ont pris dans le roman des directions différentes parce que je ne voulais pas restituer une opération particulière parce que, comme chacun le sait, l'espionnage c'est très lié au secret défense.
Plus je vous écoute, Marc Duguin, et plus je me demande, mais Marc Duguin, espion, vous l'êtes vous-même?
Oh non, bien sûr que non. Et si je l'étais, je ne vous le dirais pas de toute façon. Il y a, je dirais, un travail de maintenance et d'entretien d'un réseau assez large de contributeurs, d'amis avec qui je discute, qui me parlent en toute confiance. Et je pense qu'il y a quelque chose qui valorise un peu ces relations, c'est qu'ils savent que je ne trahirai jamais.
Et comme Marc Duguin semble décidément bien renseigné, Bernard, cette intrigue, paysage trompeur, elle se situe dans un pays en pleine actualité, c'est l'Iran.
Ben oui, alors où il est bien renseigné, où il a du flair, le terrain, en tout cas, Marc Duguin semble le connaître, comme le révèle cette nouvelle et étonnante confidence.
J'aime bien y aller, j'ai été en Irak, j'ai été au Kurdistan, avec des gens qui étaient plutôt bien informés. En tout cas, l'histoire que je raconte par rapport à l'Iran est une histoire qui n'est pas connue, mais qui est... je pense, plutôt vrai.
Donc oui, vous accompagnez comme ça, vous voyagez au Moyen ou au Proche-Orient, si j'ai bien compris, avec des espions.
Je pense que dans les pays du Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas rencontrer des espions qui soient de votre bord, entre guillemets, ou qui soient d'un bord différent. Donc, en général, moi, j'ai du mal à faire des livres avec Wikipédia. Je pense que ça, c'est vraiment une imposture. Mais moi, je préfère quand même sentir les choses.
Et ce qu'il sent très bien aussi, Marc Duguin, c'est la psychologie de l'espion. Et là, je dois dire que c'est ce qui m'a le plus impressionné dans son roman, cette dimension humaine du monde du renseignement et de l'action clandestine.
J'ai un ami comme ça qui a, dans les opérations, été amené à tuer, et a tué beaucoup au nom de la France. Et c'est très intéressant pour moi comme écrivain de comprendre sa psychologie. Comment on se remet d'avoir tué des gens? Comment on vit avec ça? Puis évidemment, il y a la question du patriotisme. C'est quoi le patriotisme? Donc, il y a chez ces gens-là un engagement, une prise de risque que je trouve très fascinante. On a une grande qualité d'espionnage en France, et d'espionnage et de contre-espionnage. Et je trouve que c'est intéressant de mettre en avant ces gens envers lesquels on a une dette, qui ont évité bien des conflits et bien des opérations de terrorisme. On parle beaucoup maintenant dans les séries, quand vous voyez des séries sur Netflix, tout ça, vous voyez essentiellement des questions liées à Daesh, à Al-Qaïda, mais il n'y a pas que ça.
Voilà, c'était le débriefing de l'espion, pardon, de l'écrivain Marc Dugas.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que en l'écoutant, on se dit, mais en fait, il est aussi espion. Ah,
et on n'a pas tous les mêmes amis, quand même.
Oui, oui, sacré personnage. Marc Dugas, et qui garde donc sa part de mystère, espion ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il publie son premier roman d'espionnage, et je pense qu'on a trouvé notre John Le Carré français. Ça s'appelle Paysage trompeur, ça paraîtra jeudi, chez Gallimard.
Dans quelques instants, c'est vous qui allez prendre la parole. Patrick Sébastien sera là, un autre univers que Marc Dugas, pour le
c'est
que
bien
ça
de
dure,
le préciser, Pascal.
Bien sûr. Et Sophie Marceau, alors ça... Oui, non, mais il faudrait peut-être arrêter de parler à Sophie Marceau de La Boum, Damien Béchiot.
C'est culte, Pascal.
Mais en revanche, je vous assure que j'envie vraiment notre ami Julien Cellier qui va recevoir Sophie Marceau à 18h15, hein, je crois.
Oui, c'est ça.
Je avec Stéphane Boutsock.
Je ne doute pas qu'il y ait du monde dans RTL pour venir écouter Sophie Marceau, qui est à l'affiche depuis près de 40 ans maintenant. La Boum, c'est de 1980. Donc, 42 ans qu'elle est au sommet de l'affiche. Il est 12h57, on marque une pause, on rappelle les titres, on parle avec les auditeurs, on met son pull, son écharpe, son bonnet avec notre ami Bodin, et à tout de suite.
RTL Midi.